franceinter.com.
En provoquant le premier schisme de l'Église depuis plus d'un siècle, Mgr Lefebvre s'est mis en dehors de la communauté catholique. C'est du moins la conclusion tirée par le Vatican.
D'histoire, Patrice Gélinet.
C'était il y a 22 ans, le 30 juin 1988. Ce jour-là, 10 000 personnes venues du monde entier étaient rassemblées près du séminaire d'Écône dans le Valais suisse. Il était midi lorsque, coiffé de sa mitre d'archevêque, une crosse d'argent à la main et ployant sous le poids d'une lourde chasuble tissée d'or fin, Mgr Lefebvre faisait son entrée sous un immense chapiteau de toile pour y consacrer quatre évêques malgré l'interdiction du Vatican. Aussitôt excommunié par Jean-Paul II, il provoquait un des plus grands schismes de l'histoire du christianisme. Personne n'imaginait alors que 21 ans plus tard, le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI, lèverait l'excommunication prononcée par son prédécesseur alors que Mgr Lefebvre était mort depuis longtemps. France Inter, Patrice Bertin, le 25 mars 1991.
France Inter.
Dieu, dit-on, reconnaîtra les siens. C'est dans son fief d'Écône, en Suisse, que le prélat traditionaliste Marcel Lefebvre sera enterré le 2 avril. Mgr Lefebvre est mort la nuit dernière à l'âge de 85 ans. Il a succombé à un cancer. Suspendu ad divini 176 par Paul VI, puis carrément excommunié en 88 par Jean-Paul II pour avoir sacré des évêques sans l'autorisation du Vatican, Marcel Lefebvre incarnait ce qu'il y a de plus dur dans l'intégrisme. Fidèle mais rebelle, tel était son credo. À Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris, l'église devenue bastion des traditionalistes, tous les fidèles de Saint-Nicolas portent le deuil de leur chef de file, mais conservent intacte leur foi militante, à l'image de cette jeune femme interrogée par France Info.
La seule personne qui aujourd'hui a vraiment pu nous donner ce que nous attendions au point de vue foi et au point de vue croyance, quoi. Il nous a préservé de tout ce monde qui, à l'heure actuelle, oublie un peu ce qu'est notre Seigneur et ce qu'est la Sainte Vierge.
Philippe Levillain, bonjour.
Bonjour.
C'était à Saint-Nicolas du Chardonnay le 25 mars 1991, jour de la mort de Mgr Lefebvre, auquel vous venez de consacrer un livre publié chez Perrin. Rome n'est plus dans Rome, Mgr Lefebvre et son Église. Alors, Rome n'est plus dans Rome, c'est ce que disaient déjà les orthodoxes il y a près de 1000 ans, ou Luther en 1521, ou encore un peu plus tard les anglicans. Le schisme de Mgr Lefebvre, vous le rappelez, ce n'est pas le premier, le Vatican en a vu d'autres.
Le Vatican en a vu beaucoup d'autres. Il faut rappeler qu'un schisme, c'est une déchirure. Voilà exactement la définition qu'on peut en donner. Ils sont, d'une certaine façon, congénitaux à la fondation de l'Église du Christ, puisque l'Église s'est établie sur des débats, qui sont des grands débats, d'ailleurs théologiques, et aussi débats d'Église, qu'on appelle les débats ecclésiologiques, sur la question du magistère, qui parle, qui ne parle pas, qui peut dire oui, qui peut dire non. Et le plus grand schisme, c'est le schisme d'Occident, naturellement, au XIe siècle, qui a séparé Rome et Byzance, qui était ensuite résolu, si j'ose dire, par Paul VI avec la réconciliation avec le patriarche Athénagoras en 1963. Mais voilà, donc le Vatican, il y a eu des mini-schismes dont il serait trop long de vous donner ici le détail, qui sont ce qu'on peut appeler des approximations de la doctrine et des séparations momentanées. Mais les grands schismes sont toujours des schismes fondamentaux sur la question du magistère de Pierre.
Est-ce qu'on peut dire justement du schisme de Mgr Lefebvre que c'était un grand schisme, Philippe Levillain ?
C'est un grand schisme, dans la mesure où c'est un schisme qui est inattendu dans une période où on pouvait penser que l'Église était unanime, si j'ose dire, pour suivre cette réforme qu'on appelle le Concile de Trente, l'aggiornamento plutôt, et qu'il est venu d'un Français, ce qui n'était pas du tout évident, d'autre part qu'il était tenace et qu'il était provoqué. Dans le monde moderne où, en principe, je dirais, les églises contestées se rapprochent et où le christianisme essaie de se serrer les épaules, notamment en Occident, on peut dire que cette affaire de déchirure volontaire et provocatrice, disons le mot, était inattendue.
Alors ce schisme de Mgr Lefebvre est provoqué pas, on va le voir, par le refus des réformes du Concile Vatican II au début des années 60. Monseigneur Lefebvre, à l'époque, n'était pas connu. Sa vie publique, dites-vous, est post-consulaire, donc on commence au fond à la fin de sa vie, puisqu'il avait 60 ans à peu près au moment du Concile Vatican II, si bien qu'on ignore tout ce qui a pu conduire Marcel Lefebvre à la rupture depuis sa naissance à Tourcoing en 1905, dans une famille très pratiquante. Vous rappelez, Philippe Levillain, que 5 des 8 enfants de cette famille, dont il faisait partie, sont entrés en religion.
On serait même tenté de dire trop pratiquante, parce qu'il y avait un cadre idéal, une famille structurée, comme on dirait maintenant, une dévotion mariale, naturellement, le rôle de la mère, fondamental d'une vocation, et d'autre part, un rayonnement vrai, du point de vue de ce qu'on appelle les œuvres caritatives, et dans le diocèse, etc., et une vocation aussi des deux frères, l'un derrière l'autre, au sein des Spiritains, au demeurant, et au séminaire français de Rome, avant. Alors, on peut se demander si l'adaptation de Lefebvre par rapport à ce climat de confort. Lefebvre est né dans un climat de confort spirituel. La foi est évidente, la pratique est évidente, le latin est évident. Naturellement, on était maurrassien, plutôt de tendance, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il fallait que l'Église fût de droite, disons pour faire bref, et que brusquement, la remise en cause de ce que fut Vatican II, ce que était voulu par Vatican II, je ne dis pas que ça a été réussi, a troublé Lefebvre par rapport à ce qu'on peut appeler un héritage spirituel et familial, donc un environnement.
Alors il entre au séminaire, il va au séminaire français de Rome, dirigé alors par un recteur qui l'a profondément marqué, qui était l'abbé Le Floch, adhérent de l'Action française, justement de Charles Maurras, dont Lefebvre disait « c'est lui qui nous a appris ce qu'était l'antilibéralisme, l'antimodernisme, l'anticommunisme ». Tout le Lefebvre de plus tard est déjà là.
Oui, alors Le Floch est une personnalité extraordinaire, un rayonnement. Il n'y a pas doute qu'il y avait un phénomène de séduction chez lui par son autorité. Et l'autorité, ça compte, surtout dans un séminaire quand on est recteur. Et que Lefebvre a été fasciné par Le Floch parce que probablement qu'il avait besoin de cadre. Je dirais qu'il est passé d'une famille où le père était le cadre à une famille où il cherchait un autre père. Donc ce transfert d'autorité, il le trouve auprès du père Le Floch, qui est un homme très autoritaire, violent, mais de son autorité, qui est maurassien, en ce sens que c'est une alliance extraordinaire, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Il est maurassien, Maurras est plutôt naturaliste, disons positiviste par certains côtés. Il adore le pape parce qu'il considère que c'est un phénomène qui permet que le Saint-Siège réglemente l'ordre de ce que peut être l'ordre des sens et de la sensibilité. Et il suit cet homme étonnant qui est plus romain que romain. C'est-à-dire qu'il veut faire la loi au Saint-Siège en expliquant ce qu'est véritablement la place du pape dans une société en tant que coordinateur, ordinateur et réglementeur.
Mais très conservateur, il faut rappeler que l'Action française, c'est un mouvement royaliste qui avait une importance considérable entre les deux guerres, l'Action française de Charles Maurras, qu'elle a d'ailleurs été condamnée par le pape en 1926, par Pie XI, ce que déplorait d'ailleurs Lefebvre, cette condamnation par le pape de l'Action française.
Justement. L'Action française est condamnée sur la demande des évêques français, et surtout parce que le Saint-Siège s'aperçoit, donc Pie XI après Benoît XV, qui avait préparé la condamnation, que c'est très maléfique dans la mesure où ça propose une forme d'adhésion au christianisme selon plutôt la raison que l'ordre de la foi. Et que c'est ce qu'on appelle un dogmatisme à l'envers. Et donc ça ne convient pas du tout au Saint-Siège qui veut garder la règle dogmatique sous son doigt. Et la condamnation a lieu parce qu'en même temps, ce clergé est imbu de ce qu'on peut appeler l'antirépublicanisme qui ne convient pas du tout à la politique que venait le Saint-Siège par rapport à la France républicaine depuis le ralliement.
Alors, Monseigneur le prêtre Lefebvre, ordonné prêtre justement en 1929, veut être missionnaire. Il part au Gabon en 1932 dans la congrégation du Saint-Esprit. Au Gabon d'ailleurs, qui se trouve rallié à la France libre automatiquement, puisque le Gabon en 1940, juste après la défaite française de 1940, le Gabon se rallie à la France libre. Je ne sais pas si Lefebvre était très gaulliste, il semble plutôt pétainiste. Vous rappelez une formule de lui en 1945 à la Libération, parlant de la France de 1945, « La mentalité actuelle n'a pas l'air de nous promettre un retour à des idées saines. » La France n'a-t-elle pas condamné le maréchal Pétain à mort ?
Oui, alors Lefebvre n'est pas plus maréchaliste, il est même, je pense, plutôt pétainiste, en tout cas il n'est pas gaulliste. C'est certain. Il y a chez lui un fond réactionnaire et conservateur, et d'autre part il est un petit peu myope. On peut dire que vraiment, il n'est pas prophète, c'est moins qu'on puisse dire, on le verra dans la suite, et il est même très myope, c'est-à-dire qu'en fait, il estime que la France conserve son rôle international à travers ses colonies, appelons ça comme ça encore, parce qu'elles sont sauvées dans un débat, donc il ne comprend rien au débat de la Seconde Guerre mondiale.
Et puis alors, juste après, à partir de 1947, on le retrouve au Sénégal, dans ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, vicaire apostolique puis archevêque de Dakar, chargé de convertir un pays majoritairement musulman. On écoute Monseigneur Lefebvre qui s'exprimait pour la première fois à la radio au micro de René Potier et Jean Périgaud au Sénégal en 1950.
Nous avons devant notre micro un marabout chrétien, j'espère Monseigneur, que vous ne serez point surpris de ce titre, puisque le père de Foucault lui-même aimait à s'emparer. Ce marabout n'est autre que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Lefebvre, qui appartient au Père du Saint-Esprit, et qui est en même temps l'évêque de toute l'Afrique française noire. Notre ami Jean Périgaud va l'interviewer. Je vous laisse la parole, mon cher ami.
Bien, Monseigneur, pouvez-vous nous dire quelques mots de la progression du catholicisme en AOF ?
Le catholicisme progresse d'une façon absolument certaine en AOF, et même en toute l'Afrique française. Il y a eu tout de suite après la guerre un fléchissement. Il semblait que nos chrétiens eux-mêmes avaient un certain doute, une certaine hésitation sur l'œuvre que les missionnaires accomplissaient là-bas. Et aujourd'hui, nous assistons à un désir de la part des païens, de la part de catéchumènes, de véritables désirs de conversion qui consolent beaucoup les missionnaires.
Alors on a entendu Monseigneur Lefebvre au Sénégal en 1950, je crois Philippe Levulin que vous qui travaillez sur lui, vous ne connaissiez pas cette interview, c'est le premier enregistrement de la voix de Monseigneur Lefebvre, dans un pays de 1 700 000 habitants, 54 000 catholiques à peine qu'il est chargé de convertir à une époque très troublée puisqu'on parle beaucoup de décolonisation. Quelle était son attitude vis-à-vis de la décolonisation,
Philippe Levulin ? Auparavant, Patrick Gilles, je voudrais quand même souligner que Monseigneur Lefebvre a été un très grand bâtisseur en Afrique, il faut quand même le savoir. C'est une des raisons pour lesquelles son orgueil ensuite s'est développé. Il a fait un travail de proconsul, c'est-à-dire en fait celui qui est assigné à quelqu'un qui est délégué apostolique et archevêque de Dakar, énorme. Je donne le détail des congrégations qu'il a fait venir, des congrégations féminines, d'espèces de conquêtes du territoire, et une connaissance parfaite de la carte de ce que pouvaient être les implants d'un catholicisme vivant. Il faut le reconnaître, il ne faut pas non plus mettre tout à sa charge. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles, après ça, il a pris, je veux dire, de l'ampleur. Face à la décolonisation, c'est également une position très tempérée. Il a vu venir trop brusquement. Et par conséquent, il avait une certaine façon, un peu comme Lyautey. Je suis désolé de cette comparaison qui n'est pas en faveur de Lyautey, mais qui quand même mérite d'être relevée parce qu'elle est honnête intellectuellement, comme dirait Karl Rahner. Il avait l'idée que ce serait progressif, graduel. D'une certaine façon, je crois que c'est là que naît l'orgueil de Monseigneur Lefebvre, à savoir être un peu le régisseur de ce que serait le renouveau d'une Afrique chrétienne qu'il aurait entre les mains et qui pourrait gouverner d'une façon, je dirais, qui n'est romaine, alors qu'en fait, il n'est que le délégué apostolique et l'archevêque de Dakar.
Accédant à l'indépendance, mais par étapes, hein, il n'a pas envie que ça se fasse vite. Il est plutôt hostile, d'ailleurs, à l'indépendance telle qu'elle se produit au Sénégal en 1960. Il n'aime pas beaucoup Senghor.
Il est norvégien même.
Il revient, oui. Il revient en France et lui est envoyé à Tulle, en Corrèze. Alors là, c'est au moment où, au début des années 60, se produit le Concile Vatican II. On ne parle pas tellement de lui à ce moment-là, lui qui sera un adversaire farouche de Vatican II. Il s'exprime assez peu.
On ne parle pas de lui, c'est une des grandes découvertes que j'ai faites. C'est-à-dire que moi, j'étais à ce moment-là attaché de presse de l'ambassadeur de France pour les Saint-Siège, j'en ai brouillé en 65, on ne parlait pas de Monseigneur Lefebvre. Déjà, on était à la dernière phase du Concile, quatrième session. C'est un homme qui était assez effacé, qui n'était pas estimé. Le cardinal Congar le montre dans ses mémoires, le cardinal de Lubac, avec un peu plus de douceur, était considéré comme une espèce de marginal, quoique il était ce qu'il a été à Dakar et qu'il était évêque de Tulle. Donc, c'est après qu'il va fournir son interprétation. Pendant, il est très effacé. Il fait quatre interventions qui sont d'ailleurs très peu écouté. Sur la liberté religieuse, il est contre. Sur la question de l'athéisme, naturellement, il veut qu'on s'y oppose. Et surtout sur la subsidiarité, ce qui veut dire en fait sur le fait de la consultation constante du pape avec les évêques. Il est très contre la collégialité aussi. Donc c'est peu de choses, mais enfin, ce sont des choses fondamentales, naturellement. Alors après, il a arrangé la vérité en disant qu'il n'avait pas voté pour. En fait, il a voté pour, sauf au moment de l'éclaration solennelle. C'est un homme qui observe, un homme qui n'est pas aimé. C'est une chose aussi qu'il faut dire au titre du portrait psychologique de Monseigneur Lefebvre, il n'est pas aimé. Pourquoi? C'est un mystère, les relations humaines, vous savez. Probablement un peu d'arrogance, probablement un petit peu aussi de distance par rapport au sentiment qu'il a de ne pas appartenir vraiment au collège épiscopal français. En tout cas, il n'est pas aimé. Et je dirais que ça a ajouté à sa volonté d'être fier.
Alors, fier aussi de ce qu'il avait fait en Afrique, si bien qu'il est animé par ce que vous appelez le rêve de Dakar.
Oui.
Il rêve de créer un séminaire international. Et c'est ce qu'il fait en 1970 à Écône, en Suisse, la Fraternité sacerdotale de Saint Pie X.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il fonde son séminaire, c'est-à-dire en fait, il fonde son église. Sa qualité d'archevêque, d'ailleurs, parce qu'il reste archevêque à titre personnel, ce qui est une facilité qui lui est donnée par Jean XXIII, qui en plus était un peu frappé par le caractère indépendant de Mgr Lefebvre. L'Église était très conciliante avec l'histoire de Rome. Mais il fonde son séminaire parce qu'il veut faire des prêtres, il veut fabriquer des prêtres qui soient à l'image de son idée de l'Église, à savoir des prêtres qui soient traditionnalistes, selon clair, donc qui respectent l'Église telle qu'il a toujours connue depuis le Concile de Trente.
Et avec lesquels il squatte littéralement les églises et révèle aux journalistes l'existence des intégristes qui refusent le Concile Vatican II, antenne 2 François Cornet à Rome, le 27 mai 1975.
Dans les ruines de la basilique Saint-Maxence à Rome, vous assistez à une messe sauvage célébrée selon la liturgie de Pie V, désormais interdite. Et oui, l'église aussi a ses contestataires. On les appelle les intégristes ou plus gentiment les catholiques traditionnels. Ils veulent des prêtres en soutane, des messes en latin, bref, conserver les anciennes traditions liturgiques d'avant Vatican II. Ce week-end, des traditionalistes à Rome étaient animés par Mgr Lefebvre, ancien supérieur des Pères du Saint-Esprit, et ses 104 séminaristes.
Si nous semblons désobéir, nous désobéissons à la subversion, à ce courant destructeur de l'Église, et nous sommes évidemment un obstacle à cette œuvre qui s'opère actuellement d'autodestruction de l'Église, et c'est pourquoi on nous demande de disparaître, mais nous pensons au contraire être de fidèles serviteurs de l'Église, de fidèles fils du pape, en maintenant notre séminaire et en gardant la tradition.
Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin.
Alors le latin, ce n'est pas la seule chose dont Mgr Lefebvre déplore la disparition, Philippe Levillain. En quoi consistait cette révolte qui s'est développée au fur et à mesure que le temps passait contre Vatican II? Il n'y avait pas que la suppression du latin, le retour à la messe de Saint Pie V qui datait déjà d'il y a 5 siècles.
C'est l'argument moteur et principal qui va lui servir pour, disons, organiser les mouvements des foules autour de lui. Il y a surtout le sentiment que la papauté est en train de devenir une zone de libre-échange entre le sécularisme et le christianisme. Et donc, c'était pas possible qu'il pouvait devenir une forteresse. Position, Patrice Gélinet, qui est partagée par d'autres, il faut bien le savoir, c'est que le cardinal archevêque de Gênes de l'époque, le cardinal Siri, a écrit un livre qui s'appelle Il Baluardo en italien, Le Rempart. Il estime que l'Église est en train de défaire ses remparts. Donc il ne faut pas le voir comme un homme isolé. Simplement, la violence de ce qu'il va faire est absolument exceptionnelle. Il a un tempérament de violent, c'est un doux violent.
lui et ses disciples, parce qu'il en a beaucoup, effectivement, vous le rappelez, dont ceux qui en France s'emparent de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, alors une église qui quand même se caractérise par ses positions d'extrême droite, organisant les obsèques de Paul Touvier, de Jean-Pierre et Marie-France Tirebois, ou encore de Maurice Bardèche, fait une messe à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie, les victimes françaises bien entendu, ou encore une messe chaque 21 janvier à la mémoire de Louis XVI. C'est très politisé.
Ça devient un dérapage que Mgr de Fèvre ne contrôle plus d'ailleurs, à savoir une récupération de ce qu'on appelle le traditionnalisme, donc une espèce de nostalgie d'un passé figé, par un mouvement politique qui prône l'alliance avec une église qui est une sorte de figure de sauvegarde qui permet de tout dire. Je veux dire que, et là, il perd la main.
Qui lui permet aussi de tout dire. Il y a toute une série de citations que vous reprenez. Quand il prend par exemple en 80 la défense du régime chilien de Pinochet, dès qu'un homme, dit-il, se lève pour sauver son pays du communisme, on fait tout pour le discréditer. Il n'y a pas un pays où on puisse circuler aussi librement qu'au Chili. Ou encore en 86, parlant de la visite du pape Jean-Paul II à Rome, il dit « Il est inspiré par le diable et au service de la franc-maçonnerie ». Ou encore, toujours en 86, « Les autorités de l'Église et le clergé sont atteints du sida. Ils sont sans défense contre les erreurs et cela les conduit à accepter n'importe quoi, comme les pastorales des homosexuels, des prostituées ou des divorcés. »
Absolument. Mgr Lefebvre est un véhément. Mmh. Il a une éloquence qui n'est pas du tout identique dans tous les cas de figure, mais c'est un véhément. Il a sorti figure. Et il y a un côté, je suis désolé de le dire à vos micros, mais mutatis mutandis, avec toutes les nuances qui s'imposent, il y a un côté Le Pen chez lui. C'est-à-dire qu'il a le sens du verbe, le verbe destructeur, ravageur, qui permet d'un seul coup, d'un seul, d'identifier quelque chose qui est l'adversaire. Et ce qui est très triste, c'est qu'il ne le fait pas au nom de la foi, il le fait au nom, véritablement, de ce qu'on peut appeler une réaction violente à l'égard du Saint-Siège. Très étonnante est la haine qu'il a portée à Paul VI. On peut dire que Paul VI...
Attends, Paul II, pardon.
Et à Paul VI.
À Paul VI aussi.
Oui, et à Jean-Paul II ensuite, naturellement. Bon. Mais Paul VI n'avait pas les nerfs assez solides pour résister à Mgr Lefebvre. D'une certaine façon, je dirais que dans le bilan de sa mort, Mgr Lefebvre y est pour quelque chose. Jean-Paul II, évidemment, est un roc, par conséquent, Jean-Paul II ne s'est pas fâché, il a excommunié tout de bois barre. Je veux dire que, voilà.
Malgré les provocations de Mgr Lefebvre,
absolument.
Il lui est interdit de pratiquer des ordinations de prêtres, ce qu'il fait.
Absolument.
Et puis alors, il défie le pape en consacrant même quatre évêques à Écône, ce qui allait provoquer aussitôt son excommunication. France Inter, Alain Bédouet, le 30 juin 1988.
L'autorité de Saint-Pierre ne se partage pas. En provoquant le premier schisme de l'Église depuis plus d'un siècle, Mgr Lefebvre s'est mis en dehors de la communauté catholique. C'est du moins la conclusion tirée par le Vatican. Mgr Lefebvre a donc été excommunié aussitôt après avoir consacré à Écône quatre évêques traditionalistes. Mais le chef de file des intégristes ne veut pas en démordre. C'est lui qui a raison. Et ce n'est pas lui qui se coupe de Rome, mais Rome qui se coupe de lui.
Du tout de nous séparer de Rome. Bien au contraire, c'est pour manifester notre attachement à Rome que nous faisons cette cérémonie. C'est pour manifester notre attachement à tous ceux qui ont précédé ces papes qui, malheureusement, depuis le Concile Vatican II, ont cru devoir adhérer à des erreurs. Loin de moi de m'ériger en pape.
À en croire Mgr Lefebvre, Philippe le Vilain, au fond, c'est Rome qui est schismatique, c'est pas lui.
C'est sa grande idée. C'est-à-dire que ça consiste à retourner les tables. En ce sens que Rome, donc Vatican II, donc Paul XXIII, Paul VI, etc., ont trahi l'Église avec le Vatican II. Donc sa grande idée, c'est qu'ils sont responsables du schisme, ils sont schismatiques, et que lui est le gardien de la foi et le gardien du dépôt de la foi. C'est une grande idée qui consiste effectivement à mettre les gants à l'envers. Il y tiendra jusqu'au bout, et c'est une idée pour le coup réactionnaire. C'est une idée intégriste pour le coup, parce qu'il y a plusieurs feuilles dans le discours de Mgr Lefebvre. Il y a le discours traditionnaliste, le latin, la main, etc. Le discours intégriste, c'est rien ne peut bouger. Donc, intégrer, en latin, pure. Donc c'est ça. Donc il est à la fois traditionnaliste, intégriste et, si on veut, réactionnaire, il résume les deux. C'est pas une phrase non plus.
Parce que Rome a tout fait pour éviter le schisme qui était annoncé. Tout. Elle a envoyé un émissaire qui n'est autre que le cardinal Ratzinger, c'est-à-dire l'actuel Benoît XVI, mais il a refusé tout compromis avec Rome.
Alors c'est son jeu, c'est un jeu très pervers, en ce sens que le cardinal Ratzinger, c'est une des raisons qui explique la levée des communications en janvier 2009, jusqu'au dernier moment, va espérer. Et le fait est un négociateur terrible, parce qu'il a un côté, comment dirais-je, joueur de poker. Il dit la nuit, oui, c'est bon. Et le lendemain matin, il dit non. Il dit, j'étais inspiré par l'esprit, je ne veux pas. Et donc, je crois que c'est la grande humiliation du cardinal Ratzinger, la veille de la consécration des quatre évêques, c'est d'avoir cru qu'il allait être cru. Et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de bonne volonté vis-à-vis de l'Église, en reconnaissant que finalement, on peut récupérer ces quatre évêques. Sauf le cardinal, Dieu nous en garde, sauf Mgr Williamson.
Oui, alors on y reviendra. Mais je voudrais qu'on rappelle quand même que Mgr Lefebvre, en fait, il est très âgé au moment où se produit cette excommunication. Il meurt en 1991, mais il laisse derrière lui quand même une quantité de fidèles. Vous rappelez que cette Église, qu'on peut qualifier, qui est intégriste, elle regroupait, jusqu'à ces derniers temps, entre 150 000 et 200 000 fidèles.
Oui, tout à fait. Ce qui était à la fois beaucoup et peu. Mm-hmm. C'est beaucoup et peu. Il faut reconnaître, surtout, c'est dans des zones parfaitement identifiables. Mais âgé, je crois que c'est d'ailleurs là que tout se joue. Monsieur Lefebvre est persuadé que s'il n'ordonne pas, s'il ne consacre pas quatre évêques, l'Église est perdue, ce qui est vrai. Mm-hmm. Donc il le fait. Mais il le fait avec un certain panache. Il est averti. On n'a jamais su quels sont les documents qui permettaient les négociations la veille de la consécration des évêques.
Alors en tout cas, cette église est importante, église intégriste, quand même à distinguer de ce qu'on appelle les traditionalistes. Eux, ils restent fidèles à Rome.
Alors il y a plusieurs familles dans cet ensemble. Il y a les traditionnalistes qui sont fidèles à Rome. Il y a des vacantistes qui espèrent que le siège de Rome restera vide et que l'église sera en quelque sorte gouvernée par un principe supérieur qui est une église romaine sans pape. Et puis il y a les intégristes qui pensent que rien ne va bouger et qui font en sorte de revenir au temps passé.
Alors une église divisée justement que le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, essaye de réunifier, l'an dernier, vous le disiez, en levant l'excommunication de Mgr Lefebvre. C'était en janvier 2009. Comment interpréter justement cette levée de l'excommunication alors que Mgr Lefebvre était déjà mort depuis longtemps? Est-ce que c'est un grand pas en arrière ou un grand pas en avant?
Non, c'est un grand pas en avant. Le principe de Benoît XVI Ratzinger, c'est que « utunum sit », que tout le monde soit atteint. Donc la grande idée qu'il a eue, c'est qu'il ne pouvait pas mourir sans, étant donné qu'il est le dernier pape du Concile, parce qu'il était cardinal sous Jean-Paul II, mais enfin, il était expert au Concile. C'est qu'il faut qu'il réconcilie l'Église avec elle-même.
Donc, ça porte un scandale, vous l'avez dit. Mgr Williamson, qui était un des quatre évêques consacrés par Lefebvre en 1988, était négationniste.
Alors c'est vrai, et c'est une erreur, le pape s'en explique dans Lumière du Monde, qui est le livre qui est paru aujourd'hui, à savoir qu'il ne savait pas, et il faut le croire, que Williamson était un négationniste réitéré à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, Mgr Fellay, qui est donc le
successeur de Lefebvre,
vient dire récemment, je crois avant-hier, que la fraternité sacerdotale Saint-Pilice était prête à se séparer de Mgr Williamson. À voir, parce que je dirais que tel père, tel fils.
Merci Philippe Levillain. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rome n'est plus dans Rome, Mgr Lefebvre et son Église, qui vient de paraître chez Perrin. Et vous êtes également l'auteur d'une biographie de Benoît XVI, publiée chez Fayard en 2008. À lire aussi Histoire du christianisme en France de Marie Pinsard, qui vient de paraître aux éditions Ouest France, Le dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, sous la direction de Dominique-Marie Dauzet et Frédéric Lemoigne, au CERF, et enfin La messe à l'envers, l'espace liturgique en débat de Marc Levatois aux éditions Actes Sud. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Guillaume Roux et Thibaut Deschamps, documentation et archivina Camille Pouget-Laguier, Frédéric Martin, Franck Olivard et Sophie Gidry, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les joutes et les tournois au Moyen-Âge.